Bonjour.
Bonjour.
Collège Bécane, projet radio humain augmenté.
Bienvenue sur l'émission de Radio Collège Bécane. Accompagnés de Madame Boudjalat, les élèves de 6e 1, les 61, ont réfléchi, recherché, questionné sur l'humain augmenté. Qui est-il ? Est-ce un super-héros ? Une super-héroïne ? Pourquoi des exosquelettes ? Pour répondre à toutes leurs questions, Chloé Delacroix, Claire Labitte-Bonis, Nadine Vigouroux, Frédéric Vella sont venus les rencontrer au collège Maurice Bécane de Toulouse. Ce projet fait partie du parcours laïque et citoyen du conseil départemental de la Haute-Garonne. Il est proposé par les Chemins Buissonniers. Maintenant, écoutons le premier débat sur les super-héros et super-héroïnes dans les jeux vidéo avec un jeu de rôle pour les élèves. Ce débat est proposé par Chloé Delacroix, sociologue du genre, chargée des actions égalité femmes-hommes au Chemin Buissonnier.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, on a parlé un peu des super-héros, super-héroïnes, des personnages de jeux vidéo, masculins et féminins. On a vu leur représentation des fois différenciée. J'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez sur ce sujet-là.
Alors, moi, je pense que dans les jeux vidéo, il y a des filles qui sont assez dénudées, des garçons qui sont mis en valeur avec leurs muscles. Mais c'est pas la vérité parce que, par exemple, un garçon, il peut être tout aussi musclé qu'une fille, même si un peu plus. Et une fille peut être tout aussi habillée qu'un garçon, parce que c'est la vérité.
Bah, dans certains jeux, il y a des jeux qui ne respectent pas trop les filles, ils font des trucs bizarres. Les garçons aussi, en fait, dans un jeu, c'est pas parce qu'il a des muscles qu'il est fort, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a pas de muscles qui est plus fort. Et une fille qui est habillée normalement, elle peut être plus forte qu'une femme qui est habillée avec pas beaucoup d'habits.
Ben, moi, je pense que dans les jeux, la physique de les femmes et des hommes, ils sont différentes. Mais dans la réalité, en fait, c'est quasiment la même chose.
Est-ce que vous, ça vous embête quand vous jouez aux jeux vidéo, ces représentations ?
Oui. Sur le moment, mais oui. Après, on n'y peut rien, on peut pas changer, vu qu'on n'est pas,
on n'est pas les créateurs.
Oui. Voilà.
Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a ces représentations-là ?
Ben, ça peut attirer certaines personnes et choquer des personnes aussi.
Pour attirer
les personnes.
La plupart des garçons. Quelques, en tout cas.
Après, par exemple, il y a des gens qui jouent à GTA, mais ils jouent pas parce qu'il y a des filles qui sont à moitié habillées. Ils aiment bien parce qu'il y a des missions qu'ils aiment bien. Il y a de la voiture. Des fois,
on
conduit. Oui, de l'action, voilà, dans GTA.
Ou alors, il y a des autres films, des jeux vidéo, par exemple Avatar, où la fille n'est pas mise en valeur. C'est l'héros, mais elle n'est pas mise en valeur parce qu'elle est dénudée, mais juste parce qu'elle est normale et qu'elle a un fort caractère et qu'elle est la plus forte.
Et aussi dans Mario, y a, c'est pas comme GTA ou d'autres jeux. La princesse, elle est habillée en robe et Mario, il fait jeu. Et des fois, avec d'autres personnes, ils font juste des niveaux. Et des fois, quand ils ont fait, je sais pas, le niveau 5, ils retrouvent la princesse et après, il se passe d'autres choses. Mais il n'y a pas forcément que des filles à moitié habillées dans les jeux.
Ouais, mais alors tu parlais de Mario justement. Tu as dit au niveau 5, il retrouve la princesse. Donc le but, c'est de sauver la princesse.
Oui.
Et vous trouvez ça bien d'aller sauver les princesses ?
Oui. Au moins, il fait quelque chose.
Ouais, voilà.
Et est-ce que des fois, on va sauver les princes ? Est-ce que des fois, vous jouez des princesses qui vont sauver des princes ?
Dans un film, je l'ai déjà vu. Je ne me rappelle plus, mais oui.
Non.
Mais c'est plus rare.
Oui. Ouais.
Et donc, vous avez dit, donc peut-être qu'il y a des femmes plus dénudées, plus hypersexualisées, on a dit, parce que ça pourrait faire vendre. Enfin, vous disiez, ça pouvait attirer.
Oui, ça attire donc, les gens, ça attire beaucoup de gens.
Est-ce que vous, ça vous attire ?
Non.
Je préfère jouer à un jeu moins bien, mais avec des trucs pas pas avec des gens à moitié habillés ou que jouer à un jeu où il y a presque... Par exemple, si j'aime bien un jeu de voiture et qu'à tous les niveaux, on voit une fille dénudée.
Bah, c'est pas bon.
Ouais.
Ça fait dégoûter, ça fait mal penser de les filles.
Ça donne une mauvaise image.
Ouais, une mauvaise image à les filles. À les filles.
Et donc, pourquoi est-ce qu'on continue d'en faire? Alors, si vous nous dites que vous, ça vous attire pas et que ça donne une mauvaise image des filles.
Mais parce que, en général, les gens aiment ça. Donc, oui. Les gens, ils veulent juste faire du business. Ils veulent juste
attire les gens. Oui, voilà, les créateurs, ils voient que les gens, ils aiment. Ils vont gagner de l'argent, c'est pour ça que...
Ils font des études pour ça, en fait. Ils font des études pour attirer la plupart des clients. Ils font des choses pour... faire quelque chose au cerveau pour plus jouer au jeu. Ils font des études pour ça.
Aussi, il y a les dessinateurs qui sont... Ils disent, moi, j'ai bien dessiné ça, prenez-moi dans votre nouveau jeu. Aussi.
Et juste pour finir, vous nous dites qu'ils font des études pour voir si ça attire vraiment les gens, mais est-ce que vous pensez que ça attire vraiment les gens?
Oui.
Ou est-ce que vous pensez qu'on pense que ça attire les gens?
Parce non, que c'est un peu des stéréotypes. ça attire les gens.
Oui, ça attire.
Ça attire qui comme personne?
Les jeunes.
Ceux qui savent pas.
La majorité, c'est les jeunes.
Non, pas forcément. Il y a des adultes qui jouent.
Oui, aussi. Et de 20 ans, 21 ans.
Il y a des filles, des garçons, des jeunes, des vieux.
Et vous pensez que les filles dénudées qu'on a vues, ça attire les filles ou les garçons?
Les garçons.
Plus les garçons, parce que...
Oui.
Logiquement, les garçons, ils se mettent avec les filles. Il y a moins de filles avec une fille qu'un garçon avec une fille.
Donc l'idée, c'est que c'est plus pour faire vendre des jeux à des garçons dont on pense qu'ils vont être attirés par ça.
Oui, voilà, pour gagner de l'argent.
Vous voulez conclure, dire quelque chose pour finir?
Que les jeux vidéo, c'est plus pour ils font des choix pour attirer les clients, mais que ces choix n'ont pas... d'effets sur, par exemple, nous. Et ils ont des faits pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont jeunes.
Mais après, ça dépend. Ça dépend les jeux, en fait.
Il y a des jeux... les gens.
Il y a des jeux
simples et des jeux...
difficiles.
Comme GTA.
Après, il y a des jeux qui attirent le plus de monde. Par exemple, si c'est un rapport avec un sport... une activité, des trucs comme ça va attirer beaucoup. Et alors qu'un jeu complet avec de tout, du sport, des activités, des missions, ça va attirer plus que
personnes.
Voilà.
Mais si t'as pas le choix de faire ça, tu peux rien faire. Mais si t'es libre dans un jeu, si tu joues bien dans un jeu, ce sera beaucoup mieux.
Oui,
tu es libre, mais comme GTA, tu es pas libre. Il y a des missions aussi que...
Mais après, tu as le droit de pas vouloir le faire. Tu dis, ce jeu, il fait des trucs pas bien. Ce jeu me déçoit. Et tu changes de jeu. C'est possible aussi, ça aussi. Tu n'es pas obligé. C'est pas comme s'il disait, fais ma dernière mission, sinon je viens te découper demain soir. C'est comme si c'était une obligation.
Mais tu avances pas.
Mais tu changes de jeu.
Mais quasiment tous les jeux sont comme ça.
Non.
Quasiment.
Il y a beaucoup de jeux qui sont simples, sans avoir des missions.
Sans de violence, sans rien.
Mais déjà, c'est pas mal de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça et de vous rendre compte que c'est pas la réalité aussi.
Oui.
Je vous remercie.
De rien.
De rien.
Collège Bécane.
Projet radio, l'humain augmenté.
Et les 60 Worms continuent dans le second débat à posture.
Donc bonjour à toutes et à tous. Vous avez chacun et chacune une petite carte. Alors je vais vous demander de vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Marois. J'ai la carte mère d'une jeune fille adolescente.
Moi je m'appelle Clara et j'ai la carte militant féministe.
Moi, je m'appelle Juan et Yamer qui est avec moi.
Je suis l'homme politique.
Moi, je m'appelle Justin et avec mon copain Maël et j'ai la carte de développeuse de jeux vidéo.
Moi, c'est Maël et je suis homme politique comme Juan. Bonjour, moi c'est Maëlle et je suis une développeuse de jeux vidéo.
Très bien, merci. Alors on a pu voir brièvement la représentation des personnages masculins et féminins dans les jeux vidéo. Vous, en tant que développeuse de jeux vidéo, homme politique, militant féministe, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah, que c'est hors de la société, c'est pas bien. On montre des femmes à moitié nues et pour divertir des gens. Et je trouve ça bizarre.
Moi, je pense qu'il faut pas trop laisser de liberté dans la dénudation, le numérique.
Vas-y, développe.
Il faut pas trop mettre des femmes trop dénudées parce que c'est un peu bizarre.
Comment ça, c'est bizarre ?
Dans la rue, moi, je vois pas des femmes dénudées.
C'est pas réel. Oui. C'est ça que tu veux dire, oui. D'accord.
Moi, je trouve que ça humilie les femmes de représenter des femmes dénudées dans les jeux vidéo. Et je trouve qu'il faudrait arrêter parce que ça peut choquer aussi des gens.
Moi, je trouve que c'est bête, en fait, de mettre des personnages nus dans des jeux vidéo.
Moi, je pense que c'est pas trop bien de faire une création de femmes nues pour divertir les gens.
Mais le pire, c'est que tous ces jeux sont en 3D, en plusieurs dimensions. Et donc, on peut voir plus près et c'est ça que je trouve bizarre.
J'ai entendu divertir. Vous pensez que c'est fait pour divertir les gens ?
Il y en a quelques-uns, oui. Ouais.
Moi, je pense que c'est pour attirer, surtout. Fin...
C'est pour attirer les hommes.
Ah, donc c'est pas tous les gens, c'est juste les hommes.
S'il y a des hommes qui sont nus, mais c'est pour attirer les femmes.
Et il y en a des hommes nus ?
Non, mais des fois, il y a un slip.
Ouais.
Si tu vas dans la mer, forcément, tu vas en voir des hommes en maillot de bain.
Mais là, est-ce que ça serait pas un peu logique ?
Mais aussi, il y a des inégalités, parce que du coup, les femmes, on les représente nues et un peu celles qui sont pas égales à l'homme. Et les hommes, on les représente musclés et qui combattent et qui défendent des femmes, alors que ça pourrait être l'inverse.
Tout à fait. Donc vous pensez que c'est fait pour attirer des hommes, j'ai entendu dire, c'est ça ?
Oui.
Et vous pensez que ça marche ?
Non.
Non, oui, ça marche un peu.
Il y a quand même beaucoup de gens qui l'achètent. Hein ?
Il y a beaucoup de gens qui en achètent. Mais est-ce que vous en achetez ?
Moi, oui. Pas forcément.
Moi, il y a mon petit frère, comme hier, il avait joué à un jeu, et il y avait une femme qui était nue, mais il était choqué.
Donc il y a des gens qui en achètent, mais peut-être pas forcément pour ça alors, non ?
Peut-être que c'est aussi pour le jeu. Le braquage aussi, c'est un peu le but du jeu.
Mais vous, est-ce que vous continueriez à acheter des jeux si c'était pas comme ça ?
Moi non.
Moi si, je continuerais.
Ouais.
Ça dépend quel jeu, bien sûr.
Et s'il y a des femmes nues ?
Ouais, justement, s'il y en a pas, est-ce que vous continueriez à acheteriez les jeux s'il y avait pas de femmes nues dedans ?
Oui.
Oui, mais aussi des fois les jeux vidéo avec des femmes un peu nues, c'est aussi pour divertir des gens qui sont peut-être en colère, qui sont énervés, et ça peut les calmer. C'est pas très bien.
C'est les femmes nues qui pourraient les calmer, c'est ça, tu dis ?
Après, il y en a des gens, ils sont un peu bizarres.
Il y a des gens, ils jouent à des jeux vidéo, quand ils voient des femmes nues, ils commencent à jouer.
Donc il y a des gens qui jouent que pour ça, alors, vous pensez ?
Oui.
Et il y en a beaucoup, des gens comme ça ?
Moi, je dis oui. Hein.
Ça dépend.
Moi, je sais pas.
Mais après, peut-être que je pense pas que ceux qui ont créé les jeux avec des femmes dénudées, ils ont pas demandé, enfin, aussi, et ils ont pas donné la vie
ils ont pas
des
demandé...
femmes. Fin...
Parce qu'ils voient toujours des femmes dans la rue.
Donc ils ont pas demandé la vie des femmes en faisant ça ?
Oui, c'est pas réel.
Et est-ce que vous pensez qu'ils ont demandé l'avis des hommes en faisant ça ?
Non.
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 Non. Est-ce qu'on n'est pas dans des stéréotypes ?
Si, un peu.
De
si.
Dire que les garçons vont vouloir voir des femmes nues ? Parce que c'est ça qui se passe un peu.
Oui.
Si.
Alors que c'est pas forcément la réalité. Je vous remercie d'être venu. Juste un mot pour conclure, si vous voulez conclure.
Aussi, c'est... Les filles, je comprends pas pourquoi elles sont un peu stéréotypées. Parce que si, c'est la liberté de chacun. Les filles, elles peuvent être comme ça... Elles peuvent être habillées, elles peuvent être en robe.
Ou elles peuvent être dénudées si elles en ont envie. Et là, on ne nous laisse pas le choix, on nous impose ça.
Mmh.
C'est vrai.
Mais après, dans les nouveaux jeux, il n'y a que des femmes nues.
Il y en a beaucoup plus.
Les hommes, souvent, quand ils sont très musclés, c'est souvent dans des jeux violents.
Oui, ça c'est comme GTA.
Il y a des jeux où les hommes ne sont pas musclés, mais là, il faut sauver des princesses. Et pourquoi ce serait pas l'inverse?
Il y a beaucoup de stéréotypes dans tout ça. Bah, je vous remercie d'avoir participé.
Merci, au revoir. Merci.
Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir. Merci.
On se retrouve pour 61 sur la radio de Maurice Bécane sur l'humain augmenté. Merci à tous, jeunes gens.
Merci les 61. Et pour vous, c'est qui votre super-héros et super-héroïne? Que pensez-vous de l'humain augmenté? Voici le micro-trottoir.
Bonjour, pour vous, quelle héroïne ou héros préfériez-vous?
D'accord, en super-héroïne, on va dire Wonder Woman.
D'accord. Excusez-moi, monsieur. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez faire une question pour un projet radio qu'on fait? Pour vous, c'est quoi un super-héros?
Désolé, je ne parle pas français.
Super-héros, pour moi, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs, souvent, et qui sauve la vie des gens. Voilà. Et après, le caractère qu'il faut avoir, je ne sais pas, ça peut être différent. Spider-Man, c'est un super-héros. Ilian. Non, Spider-Man ou Batman, Iron Man, Catwoman, c'est une fille. Wonder Woman, voilà.
À faire le jardin, pour moi c'est le jardin. Vous voyez, quand on prend de l'âge, tout, mon mari ne peut plus le faire. Un super-héros qui vient, voilà, me couper les arbres et m'entretenir le jardin, voilà, c'est tout.
Que pensez-vous de l'humain augmenté?
Je sais pas.
Merci.
Alors, merci. Au revoir.
Bonjour. On fait un projet associatif de l'école, d'un collège. Et on travaille sur l'humain augmenté et on voulait vous poser quelques questions. Pour vous, quel est votre héros préféré?
Mon héros préféré?
Ou héroïne.
Superman.
Et pourquoi?
Ben parce qu'il sauve les gens, voilà.
Merci. Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Que pensez-vous de l'humain augmenté?
Je suis pas forcément favorable aux technologies d'humain augmenté, style des robots, enfin des capteurs en plus sur l'humain. Ça me parle pas trop et... Je ne suis pas spécialement favorable.
Oui, je t'écoute.
Quel est votre super-héros ou super-héroïne préférée?
À brûle pour point comme ça, je ne sais pas. Qui c'est que je pourrais dire? Allez, Mandala.
Voilà. Que pensez-vous de l'humain augmenté?
Ça m'a fait extrêmement peur. Je suis pour l'humain tout simple. Et attention aux dérives que ça peut provoquer. Quand on veut trop jouer avec le feu, on peut faire des grosses catastrophes.
Vous, quel est votre super-héros préféré?
Non.
Super-héros préféré?
Je ne sais pas quoi vous dire. Les hommes qui font de la recherche pour la santé, voilà, mes héros.
Pour vous, c'est quoi l'humain augmenté?
Pardon.
L'humain augmenté.
Non, je ne connais pas cette expression.
Merci, au revoir et bonne journée.
Vous pourriez me le dire ce que c'est?
L'humain augmenté, c'est quand l'humain est mélangé avec un robot un peu.
Intelligence artificielle. Je comprends pas. Intelligence artificielle.
Quel est vos super-héros préférés? Et ou super-héros et super-héroïnes?
Moi, c'est Batman et Spider-Man et... Comment elle s'appelle déjà? Et Wonder Woman.
Ouais, Wonder Woman.
Que pensez-vous de l'humain augmenté?
C'est quoi ça?
Les gens qui sont techniquement augmentés que les autres.
Moi, personnellement, j'aime pas les cyborgs et tout ça. Non, j'aime pas trop. Je préfère les humains avec les super pouvoirs. Je préfère ça.
C'est trop bien, ouais. Ils connaissent tout et tout. Ils sont là, ils sont plus hauts que nous et tout.
Pour vous, c'est quoi votre super-héros préféré?
Ou
super-héroïne?
Wonder Woman.
Est-ce que vous connaissez l'humain augmenté? L'humain augmenté.
Ah, pas du tout.
Une intelligence artificielle. Un humain augmenté. Bon, ben merci et bonne journée.
pareillement.
Oui.
Selon vous, qu'est-ce que c'est que l'humain augmenté?
La réalité augmentée?
Non, l'humain augmenté.
Je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout aucune idée.
Ah, et oui. Quel est votre super-héros favori?
Super-héroïne. Ah d'accord, Batman par exemple.
D'accord, merci.
De rien.
Quel est votre super-héros préféré?
Je sais pas du tout. Je suis pas super-héros, je regarde pas les dessins animés. Premier venu, Spider-Man, on va dire.
Mais pour la petite peut-être c'est la Reine du Neige, après pour moi je...
La Reine du Neige?
Oui.
L'humain a augmenté.
Qu'en pensez-vous?
Ben, une côté c'est bien, mais après ça dépend de quelle la question en fait. Si c'est pour la santé peut-être c'est bien, mais si c'est pour le travail et tout ça, ça limite les gens, tu vois. Les robots ils font plus de travaux que les gens, tu vois.
Que pensez-vous sur l'humain augmenté?
Pardon, tu peux...
Que pensez-vous sur l'humain augmenté?
Vous voulez parler des aides robotiques pour...
Oui, c'est ça.
Oui, j'ai vu quelques émissions, mais je ne connais pas tout sur ces procédés. Mais ça peut sûrement être très utile pour les personnes handicapées ou qui ne sont pas autonomes.
D'accord. Et quel est votre super ou super-héroïne préféré?
Moi, je ne saurais pas dire, là, ça ne me vient pas.
Pour vous, c'est qui votre super-héros préféré ou super-héroïne?
Dieu.
D'accord. Merci. Bon, ben, merci, monsieur.
Il y a Dieu.
Bonjour. Que vous pensez-vous de l'humain augmenté?
De quoi?
De l'humain augmenté.
L'humain augmenté? Vous vouliez parler de du transhumanisme?
Oui.
Chose comme ça?
Oui.
Ça dépend comment on l'augmente, l'humain. Ça peut être très divers. Je dirais que voilà, c'est pour améliorer, soi-disant, l'être humain en santé, en intelligence, peut-être aussi en esthétique, en beauté, je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est peut-être très dangereux si c'est déformé, si c'est... Je ne sais pas. En même temps, pour vaincre certaines maladies, pourquoi pas,
hein. Est-ce que vous avez une super-héroïne ou super-héros?
Est-ce que j'ai un super-héros, oui, ou une super-héroïne? Non, pas précisément. Il y a plein de gens que j'admire dans le passé et dans le présent. Par exemple, Flora Tristan, au 19e siècle. Oui, des gens comme l'abbé Pierre ou sœur Emmanuelle, évidemment, à notre époque. Mais il y en a, on les connaît, ceux-là, parce qu'ils sont extrêmement médiatisés. Mais il y en a plein d'autres qui font les mêmes choses. Donc ça me gêne un peu de dire que, comme si c'était les seuls au monde à faire du bien aux autres, à l'humanité. Il y en a plein de gens, mais on ne les connaît pas.
Que pensez-vous de l'humain augmenté?
Qu'est-ce que je pense de l'humain augmenté? Et que ça peut être une source de progrès et qu'en même temps, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas sur quoi ça peut déboucher. Ça peut être dangereux de remplacer des organes par des machines, des outils. Il faut voir comment tout ça se met en place. Il faut de la morale et de l'éthique.
Quel est votre meilleur héros ou alors meilleure héroïne?
Alors pour moi, en ce moment, ma super héroïne, c'est une dame qui est une physicienne turque, qui a passé beaucoup de semaines en prison pour ses idées, pour la liberté, et qui s'appelle Asli Erdogan.
Bonjour madame, que pensez-vous de l'humain augmenté?
De l'humain augmenté? Oh, bonne question, de bon matin comme ça. Alors, je pense que ça offre des possibilités intéressante, mais qu'éthiquement il y aura beaucoup de travail à faire en amont pour éviter les dérives, parce que c'est le transhumanisme peut vite dériver sur des choses qui peuvent à long terme être néfastes, mais néanmoins je pense que ça peut offrir des possibilités intéressantes.
C'est qui pour vous votre héros ou héroïne préférée dans la vie?
Il y a quelque temps, j'aurais eu dit Aung San Suu Kyi, mais récemment, que je n'en ai pas et que je pense qu'en chaque personne, bon, certaines plus que d'autres, il peut y avoir du bon comme du mauvais et que les héros sont autour de nous au quotidien, partout.
Que pensez-vous de l'humain augmenté?
De l'humain augmenté? Oula, vaste question, hein. Ça fait un petit peu peur quand même. de voir l'évolution et les conséquences que ça peut avoir. Mais après, c'est une technologie intéressante et c'est de toute façon la marche de l'histoire.
Est-ce que vous avez un super-héros ou une super-héroïne?
Non.
Que pensez-vous de l'humain augmenté?
Je trouve que c'est bien. Voilà. Ça dépend dans quelle mesure, mais c'est intéressant, oui.
Et quel est votre super-héros ou super-héroïne préféré dans la vie de tous les jours?
Ma copine.
Que pensez-vous de l'humain augmenté?
Niveau progrès scientifique, science, tout ça, ouais, non, c'est très très bien, ouais.
Et quel est votre héros ou héroïne préféré d'après vous?
Je te dirais mes enfants, en premier lieu, voilà.
Bon, ben merci monsieur, et à vous. Plaît. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Bécane. Radio Bécane.
Marwa, Zoé, Sana et Manav.
Nous sommes la classe de 6e 1 du collège Maurice Bécane.
Claire Labie-Bonis, doctorante au LAS, répond aux questions des 61. Extrait.
Alors, je m'appelle Claire Labie-Bonis, je suis doctorante chez Actia Automotive et au LAS CNRS de Toulouse. Et je travaille sur de l'intelligence artificielle, plus particulièrement de la reconnaissance d'objets dans les images.
Bonjour, moi je m'appelle Sana. Est-ce que vous trouvez que c'est utile de concevoir des objets afin d'améliorer des sens à des personnes qui n'ont pas de handicap ou maladie?
C'est une première question très difficile. Tu dirais plutôt dans le cadre du loisir, par exemple.
Oui.
Alors, personnellement, je trouve que l'humain augmenté, c'est très bien. Quand il s'agit de cœurs artificiels, d'exosquelettes pour les gens qui ne peuvent pas bouger, de choses comme ça. Quand on arrive au loisir, ça soulève une question morale un peu plus compliquée. Et j'avoue que tant qu'on n'en a pas vu et qu'on n'a pas vu l'usage qu'on en fait, je ne saurais pas trop répondre à ta question.
D'accord.
Bonjour, je m'appelle Marwa. Combien d'années faites-vous ce métier?
J'ai fini mon master, donc à Bac plus 5, en 2016, et j'ai commencé ma thèse en mars 2017, ma thèse, mon doctorat. Donc c'était il y a un peu plus d'un an.
D'accord.
Un an, tout pile.
Bonjour, je m'appelle Isaac. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que l'humain augmenté sera immortel?
C'est des questions assez difficiles. Qui sait, peut-être dans beaucoup d'années, pour l'instant non, parce qu'on a déjà beaucoup de mal à faire des choses très simples, donc c'est pas pour demain. Mais peut-être qu'un jour, ce sera possible.
Ok.
Si vous pouviez vous faire implanter un implant bionique, le feriez-vous?
Alors, j'ai un téléphone qui n'est même pas un smartphone. Alors j'ai du mal à m'imaginer avec une petite puce implantée dans mon cerveau ou ailleurs. Donc je pense que moi, ça me dérangerait un petit peu.
D'accord.
Est-ce que ce métier, c'était votre premier rêve d'enfance?
Quand j'ai commencé mes études, je ne savais même pas que ça existait. Et j'y suis arrivée petit à petit en faisant mes études en informatique.
D'accord.
Quel est le vrai but de LAS?
Le LAS travaille sur plein de choses différentes. Ce que je connais du LAS, c'est la partie des robots, savoir comment faire bouger un robot. Oui, il y a beaucoup sur l'informatique, il y a des choses sur de la biologie, il y a sur des composants électroniques, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites au LAS. Et entre autres de la robotique et savoir comment faire bouger, parler, entendre des robots, des choses comme ça.
Okay. Est-ce que vous pensez qu'un jour les robots prendront notre place?
Quand on fait des robots, je pense qu'il faut garder en tête toujours que c'est pour aider les humains et pas pour les remplacer. Et il faut faire très attention à comment on les utilise. Il faut utiliser des robots pour aider les gens qui font des travaux très difficiles, qui portent des charges lourdes. Tu vois, par exemple, des militaires qui doivent aller sur des zones radioactives à Fukushima ou j'en sais rien, plutôt que d'envoyer des humains qui seraient exposés à un danger, on envoie des robots à leur place. Là, on remplace l'humain, mais c'est pour son bien. Je pense qu'il faut garder ça en tête. C'est très important.
Okay. Que ferez-vous après votre doctorat?
Après mon doctorat, soit je continue dans le domaine de la recherche et j'essaie d'avoir un travail de chercheur dans un laboratoire. Soit peut-être que je continuerai à travailler chez Actia Automotive pour faire des choses pour les voitures.
D'accord.
Je sais pas bien encore.
Est-ce que, vu que vous travaillez dans le domaine de la voiture, Madame Boudjala nous avait montré une vidéo où en fait c'était pratiquement que les robots qui construisaient les voitures et après c'était les humains qui faisaient le reste, enfin pour aménager la voiture.
Oui, sur les chaînes d'assemblage dans les usines pour construire les voitures, c'est vrai que c'est des robots qui le font. Le travail en usine, c'est quand même quelque chose de pas facile et dans ces cas-là, c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait des robots qui aident les humains à faire ça.
Si on augmente tous les humains de la même façon, est-ce qu'on deviendra alors des clones ?
Alors ça voudrait dire qu'on remplace le cerveau de tous les humains par un seul et même cerveau, chacun aurait la même conscience. C'est un petit peu compliqué, moi je pense que si on augmente les humains, on va pas toucher à leur façon de penser, à leur façon d'être, à leur personnalité. Donc à partir de là, j'espère qu'on ne deviendra pas tous des clones en tout cas.
D'accord. Est-ce que avoir finir ce que vous faisiez le deck de Trova,
oui.
Vous allez continuer à faire des recherches sur les...
Est-ce que je vais continuer dans la recherche après mon doctorat ?
Oui.
Peut-être, ça me plaît bien. J'aime bien aussi enseigner, donner des cours. C'est une piste aussi.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?
Alors en ce moment, je travaille très précisément sur du comptage de passagers dans les bus de ville.
Bonjour, je m'appelle Clara. Est-ce que vous pensez que le robot va dépasser l'homme, enfin, qui pourra se débrouiller seul ou...
Il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement pour rendre les robots intelligents. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est quand même des humains qui les programment et qui les fabriquent. Ce serait probable que dans quelques années, si, allez, on va dire 50 ans, je sais pas, que des robots soient capables de faire des choses assez extraordinaires. Oui. Dépasser l'homme, c'est difficile quand même, on est extraordinaire.
Dans votre travail, combien de projets avez-vous réalisé ?
Actuellement, ça fait depuis le début de ma thèse que je travaille sur cette problématique de comptage passager dans les bus. Mmh. Ça fait un an que je travaille sur ce projet-là.
D'accord, merci.
Bonjour, je m'appelle Mehdi. Est-ce que l'humain est trop augmenté ? C'est un humain ou un homme d'après ou un robot d'après vous ?
L'humain trop augmenté ? Moi, je pense que tant que l'humain garde sa conscience, alors c'est très abstrait le terme de conscience, mais tant que l'humain est capable de réfléchir par lui-même, ça reste un humain.
D'accord.
Bonjour, je m'appelle Aurore. Il y a des scientifiques qui travaillent pour aider des gens qui ont perdu des facultés, par exemple la vue, et il y en a d'autres qui travaillent pour améliorer ces facultés. Par exemple, améliorer la vue, améliorer ses jambes pour courir plus vite. Vous pensez que vous êtes favorable, pourquoi ?
Je suis plus du côté d'aider les gens qui ont des handicaps et qui ont perdu la vue, par exemple, et de les aider à retrouver la vue si c'est possible, plutôt que d'augmenter les humains pour le fun, j'ai envie de dire. Voilà, c'est deux problématiques très différentes et je suis plus touchée par la première.
D'accord. Jusqu'où pouvons-nous augmenter l'homme ?
C'est très difficile parce que si on te remplace tes mains, tes jambes, qu'on remplace ton cœur, on remplace tous tes organes et tout ça, ça devient un petit peu compliqué. Je sais pas.
Si on s'améliorait encore plus, par exemple si on mettrait tous par exemple une main robotique.
Alors remplacer carrément un membre, là ça devient une autre histoire. Non, je pense que c'est toujours cette histoire de garder sa personnalité, garder sa capacité à réfléchir par soi-même. C'est ça qui fait l'humain. Même si je me faisais couper un bras et qu'on me le remplaçait, je me sentirais toujours humaine, à mon avis.
Bonjour, moi je m'appelle Maëlle. Pourquoi travaillez-vous sur ça ?
Parce que quand j'ai fait ma licence et mon master à l'université, j'ai étudié plusieurs choses. J'ai étudié la robotique, j'ai étudié la manière de manipuler les robots, j'ai étudié la manière de faire voir des choses à des robots et de les interpréter, comme ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et c'est plutôt le côté reconnaître des objets dans les images qui m'a plu, donc je me suis orientée vers ça.
D'accord. Est-ce que les hommes vous sous-estiment ?
Tu veux dire, est-ce que c'est difficile d'être une fille dans le métier que je fais ?
Oui.
J'ai jamais eu de problème avec les hommes, de manière générale, ça se passe plutôt très bien. Pour moi, ça n'a jamais été un frein d'être une fille dans ce monde-là.
D'accord.
Bonjour, moi je m'appelle Lily. Dans votre travail, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes ?
Pas du tout. Pour te donner un exemple, quand j'ai passé mon bac, ensuite j'ai fait un IUT informatique. On était 180 et on était 6 filles. Voilà. Donc, tu vas dans le monde de l'informatique et des sciences en général, moi, dans mon domaine, il y a peu de filles par rapport au nombre d'hommes.
Okay. Pour vous, est-ce qu'il restera-t-il des emplois pour les humains quand les robots arriveront ?
seront programmés tout faire.
Là, on parle presque de science-fiction quand on dit que les robots seront plus forts que les humains. Bon, je pense qu'il y aura toujours de la place pour l'homme et que si jamais on arrivait à développer des robots trop intelligents, on arriverait à faire des lois avant pour pas en arriver là.
Quel projet avez-vous en attente ?
Alors, y a plein de choses à faire avec l'image dans les véhicules. Tu pourrais faire de la détection de piétons autour d'une voiture. Tiens, on travaille plutôt sur des bus et des trains et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire.
Okay. Bonjour, je m'appelle Amine. Quel est votre but ?
Dans ma vie professionnelle, mon but, c'est de travailler sur des problématiques qui aident les gens. J'aimerais beaucoup travailler dans le domaine de la santé. Pour faire le genre de choses dont on a parlé, fabriquer, j'en sais rien, moi, pas des cœurs artificiels, parce que là, il faut avoir une formation que j'ai pas, mais des choses comme ça qui pourraient aider les handicaps, ça me plairait beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Loane. Comment vous est venue à l'idée de programmer des robots ?
Au fil de mes études. Après mon bac, j'ai fait des études en informatique. Et puis... Après 2 ans, j'ai entendu parler d'une licence qui faisait de la robotique. Et je m'y suis intéressée, j'ai fait des recherches sur le LAS, comme vous avez fait. Et j'ai trouvé ça super cool, donc j'ai voulu essayer.
D'accord. Ouais. Quel matériel utilisez-vous pour programmer des robots ?
Plutôt le matériel principal, c'est un ordinateur. Si tu as un ordinateur, tu peux faire presque tout ce que tu veux avec un robot.
Bonjour, je m'appelle Eliès. Y a-t-il des parties du corps que l'on ne pourrait jamais améliorer ?
Alors, je pense que le plus difficile à travailler dans la problématique de l'humain augmenté, c'est le cerveau. Ce serait peut-être le plus difficile à améliorer, mais pourquoi pas.
Bonjour, je m'appelle Maher. Quels sont les dangers qu'apportent les implants bioniques ?
Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais je pense que si on se retrouve avec des puces implantées qui sont, par exemple, reliées à Internet ou qui communiquent avec l'extérieur en Bluetooth, en Wi-Fi ou choses comme ça, c'est des composants qui sont potentiellement attaquables par des cybercriminels ou ce genre de choses. Et donc, si on peut pirater ton cerveau, si tu as une puce dans le cerveau, moi, ça commencerait à me déranger, tu vois.
Bonjour, je m'appelle Ryan et jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle ?
Jusque très loin. C'est très difficile de répondre à cette question parce que l'intelligence artificielle, très globalement, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'ordinateurs pour travailler. C'est très gourmand en nombre de calculs à faire et donc il faut des PC très puissants. Comme dans notre vie quotidienne, les PC sont de plus en plus puissants, on peut imaginer que ça peut aller jusqu'à l'infini.
Si on peut pirater les implants bioniques, est-ce qu'on peut contrer ce piratage ?
Il faudra trouver un moyen de contrer le piratage, parce que si on se fait pirater les implants bioniques, ça va très vite devenir problématique. Mais il faut trouver un moyen de contrer ça, oui.
Est-ce que les pièces qu'on ajoute aux humains, c'est que pour les handicapés ou pour toutes les personnes qui veulent en avoir ?
Je ne suis pas au courant des lois là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur l'amélioration du handicap. En ce qui concerne le loisir, je ne saurais même pas dire si c'est autorisé. Je pense qu'il faut faire quelques recherches là-dessus. Je ne sais pas trop.
Est-ce que les robots seront plus forts que les humains ?
Il faudrait les arrêter avant et savoir ce que veut dire plus fort que les humains. Savoir si nous dominerons tous comme dans les films de science-fiction. Il faudrait les arrêter avant quand même. Mais
Pour conclure, quel conseil vous nous proposez ?
Je pense que si les sciences vous intéressent, surtout, il faut y aller. Alors pour l'histoire d'être une fille dans les sciences, c'est surtout pas un problème. Au contraire, c'est une expérience à vivre. Même quand on est un garçon, ça marche aussi. C'est très bien de travailler dans les sciences, mais bon, il y a plus de garçons que de filles, donc c'est pour ça que j'en parle. Ensuite, travailler dans l'informatique et dans la robotique ou dans les nouvelles technologies en général, c'est quelque chose qui est parmi nous de plus en plus. Et donc, c'est un métier qui est très, très, très demandé. Et il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Et puis, c'est très intéressant.
Merci et à bientôt.
À bientôt, merci à vous.
Collège Maurice Bécane, l'humain augmenté. L'investigation sur l'homme augmenté continue avec la rencontre de Nadine Vigouroux, Frédéric Vella, chercheur de l'IRIT, et Chloé Delacroix, extrait.
Bonjour, moi je m'appelle Nadine Vigouroux. Donc je travaille dans un laboratoire d'informatique qui s'appelle l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Nous ne sommes pas très loin de nos collègues du LAS. C'est notre exposé en fait qui va être l'humain réparé. Et puis on va voir qu'en fait, parfois on ne répare pas aujourd'hui dans notre domaine de recherche, mais on va donner en fait de l'intelligence, comme l'a introduite notre collègue précédemment. Donc on va donner des connaissances et effectivement on va pouvoir faire raisonner, analyser comme vous faites, hein, étude de texte à faire, donc vous lisez, puis vous réfléchissez, puis vous analysez. Donc on va voir comment effectivement on va pouvoir déléguer des connaissances à un ordinateur qui peut être un robot. Voilà, donc Fred, je te laisse te présenter.
Je me laisse présenter. Donc moi je suis dans le même bureau avec Nadine, on est tous les deux au CNRS. Vous savez ce que c'est, le CNRS ?
Non.
Non, voilà. C'est le Centre National de Recherche Scientifique. C'est l'une des premières structures en France sur la recherche scientifique. Il a été créé en 1941. À l'époque, les chercheurs, voyez ce qu'ils faisaient, travaillaient tous dans leur coin, ne communiquaient pas entre eux. Et un jour, le CNRS s'est dit, « Ah non, ça ne s'en va pas, ça ne fait pas avancer la science. » Et donc, la vocation du CNRS, c'était l'interdisciplinarité.
Vous pensez que l'humain augmenté, ça va un jour être néfaste ?
Alors justement, c'était une des questions qu'on devait avoir à la fin de l'exposé. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être bénéfique, mais si on dérape pas. C'est-à-dire, l'humain augmenté, c'est censé être l'humain plus fort. Plus fort, en gros, c'est un cyborg, d'accord ? Et il va être plus fort. Bien sûr, c'est pas néfaste s'il fait de mal à personne. D'accord ? C'est comme tout. Même Internet, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Internet, c'est bien, il faut l'utiliser à bon escient.
D'accord, merci.
Bonjour, cet handicap, vous l'avez eu depuis tout petit ou...
Alors, mon handicap, je l'ai eu, oui, dès que j'étais né, avant la naissance. En fait, c'est une myopathie. Le problème de mon handicap, c'est que mes muscles sont très faibles. Je perds des forces, beaucoup de forces. Quand j'étais petit, je pouvais marcher un petit peu à quatre pattes. Après, du jour au lendemain, j'ai pu marcher. Mais j'arrivais à m'asseoir, des choses comme ça. Mais au fur et à mesure de ma maladie, j'ai évolué. Mais j'ai perdu des forces. Et tout ça, je ne pouvais plus le faire. Même manger tout seul que je pouvais faire avant, je ne peux plus. Comme écrire. Et pour ça, maintenant, j'utilise beaucoup d'ordinateurs. Et j'ai beaucoup de... super sympa, des amis qui m'aident aussi à manger, à me déplacer, à me donner des affaires, à m'installer sur mon poste de travail. Voilà, en gros, je me fais aider.
D'accord, merci. À quel âge avez-vous intégré le LAS ?
Alors moi, j'ai pas intégré le LAS. Moi, j'ai intégré le CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, à IRIT. Alors IRIT, l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Moi, je ne travaille pas vraiment sur les robots, mais on est en lien un petit peu avec, on va vous montrer tout à l'heure. En fait, on travaille sur les logiciels qui permettent de donner un accès à l'information aux personnes en situation de handicap et justement à améliorer leur confort.
D'accord. Qu'est-ce qu'un clavier virtuel ?
Alors, un clavier virtuel, tiens, je vais te montrer. Regarde, alors... Moi, comment j'interagis avec l'ordinateur, je fais tourner mon fauteuil. Je fais mon fauteuil et je déplace la manette et à l'écran, vous voyez, j'ai un curseur qui bouge. C'est vrai, vous posez des bonnes questions. Hein. Vous êtes super fort. Vous êtes même plus fort que les grandes personnes, je suis impressionné. Donc, regardez, un clavier virtuel, c'est ça. C'est comme un vrai clavier, vous voyez. Sauf que, moi, l'inconvénient que j'ai saisi qu'avec un curseur. Je vais saisir le mot maison. Donc je vais avoir ce qu'on appelle un système de prédiction. Vous savez ce que c'est, le système de prédiction ?
Non.
Alors, un système de prédiction, c'est pour prédire des mots. Je vais taper les premières lettres, le M. Et vous voyez en haut, j'ai des mots qui sont présentés dans une liste, en haut. Je continue, il y a pas maison. M, le 1. Alors, je ne vois toujours pas. Le I. Et maison, il est là. Et maintenant, quand je vais taper sur le mot maison, il va m'écrire le reste du mot S-O-N. Voilà, c'est ça le système de prédiction. Et grâce à ça, ça me permet d'aller plus vite. Après, il y a un autre moyen où vraiment là, je suis augmenté. On va dire que je suis un handicapé augmenté. C'est en utilisant de la reconnaissance vocale pour dicter à l'ordinateur. Et là, soit je vais écrire 3 fois plus vite qu'une personne valide. Donc souvent, le type d'intégration qu'on va utiliser, alors ici l'intégration que j'ai utilisée, c'était la souris, d'accord ? Et l'intégration qui me permet d'aller plus vite, c'est la reconnaissance vocale.
Votre handicap ne vous a pas beaucoup dérangé dans votre travail ?
En fait, moi j'ai suivi toujours un cursus, on va dire, classique. Vous savez, bon, ça, après, ça c'est une histoire personnelle, parce que j'ai une soeur handicapée qui a malheureusement elle peut plus avoir un cursus comme moi, et mes parents n'ont pas voulu que je subisse la même chose, et donc j'ai eu un cursus classique que j'ai trouvé super intéressant, et ça ne m'a pas gêné. Donc mon handicap finalement ne m'a pas empêché d'avancer du fait que les autres personnes l'acceptent. J'ai eu des amis, j'ai eu des gens qui m'ont bien accepté dans les écoles, les parents, tout ça. Et du coup, je ne sentais pas ce problème. Le seul problème, c'était plus le personnel, malheureusement, qui m'embêtait un peu. Mais finalement, grâce aux parents d'élèves, aux élèves et à certains professeurs, ils ont été super avec moi. D'ailleurs, je leur serai reconnaissant. Et à ma mère, ils ont permis justement de me soutenir pour pouvoir continuer dans cette voie et de permettre d'arriver jusqu'où je suis arrivé.
Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie professionnelle que vous auriez aimé faire, mais que vous ne pouvez pas faire à cause de votre handicap ?
Ce que j'aurais aimé faire, c'était l'astrophysique. J'étais super bon en physique. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sciences. Donc, toutes les sciences, ça ne me dérangeait pas, mais c'était un métier que je tenais vraiment. Et du fait qu'à l'époque, on ne pouvait pas facilement accéder au télescope, pour voir les étoiles, tout ça, je n'ai pas pu faire ce métier parce qu'ils n'étaient pas informatisés à ce moment-là. Et en plus, j'ai fait des stages justement pour chercher un peu ma voie. Et le monsieur, un jour, il m'a dit, si t'es bon en informatique, tu reviens, on t'embauche. Et un jour, j'ai rencontré Nadine. Finalement, je trouvais plus intéressant de faire le métier d'informaticien en intégration de machine pour aider les personnes en situation de handicap. Et actuellement, ma population, c'est les handicap moteurs et les personnes âgées.
Avez-vous eu des difficultés pour passer votre diplôme à l'université ?
Alors oui, c'est vrai. Enfin, moi, j'ai eu des difficultés d'ordre moteur. C'est-à-dire que je ne pouvais plus écrire. À un moment donné, j'écrivais très lentement, difficilement. Donc en fait, quand j'ai passé les examens, j'ai eu droit à une CR de vie qui m'a fait le rôle de secrétaire. C'est-à-dire tout ce que j'ai dicté, il écrivait. Mais en fait, c'est très difficile à dicter à une personne des réponses des âmes. Pour ça qu'on a droit, par exemple, à un tiers-temps.
Est-ce qu'un jour, ça vous plairait d'avoir un exosquelette pour vos mains ?
Moi, j'aimerais bien, c'est vrai, avoir... un jour, j'aimerais bien, c'est sûr, retrouver une autonomie pour pouvoir bouger mes bras, mes jambes. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Après, exosquelette, je trouve ça un peu lourd. Moi, j'aimerais bien être un humain réparé, mais côté génétique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la génétique. La génétique, c'est de la biologie cellulaire. C'est la biologie au niveau des cellules pour pouvoir réparer les gènes. En fait, le problème, c'est ma maladie qui est une maladie génétique. Et si on peut réparer mes gènes, je peux redevenir comme vous. Je n'ai pas besoin de technologie. Mais c'est tellement compliqué qu'il ne faut pas refuser la technologie. Et la technologie, il faut l'accepter, oui. J'aimerais bien avoir un exosquelette un jour.
Bonjour, c'est une question pour vous deux. Vous travaillez sur quoi et où en ce moment ?
Je suis informaticien. En interaction machine, c'est le lien entre l'homme et la machine. Comme Nadine vous l'a expliqué tout à l'heure, par exemple, le principe de la télécommande pour allumer la télévision, d'accord ? On a besoin de la télécommande pour communiquer avec la télévision, pour adapter justement, faire de la communication de l'homme vers la machine. Par exemple, le bras robotique, comme je vous ai montré, on va améliorer les interfaces pour mieux le piloter. Et en ce moment, on travaille notamment, par exemple, sur... On va dire des interfaces qui permet de s'adapter automatiquement à la personne. Par exemple, si elle est déficiente visuelle, on va lui mettre une interface et puis se voir. Si elle est handicapée motrice, on va lui mettre une interface facile pour accéder à les boutons. Ou bien, par exemple, si elle a des problèmes de mémoire, une interface pas trop compliquée qu'elle puisse repérer où sont les boutons, dans le cas pour les personnes âgées.
Alors moi, j'ai deux casquettes en tant que sociologue. En ce moment, je travaille sur les jurys de thèse. Alors quand on est à l'université et qu'on passe le doctorat, dont on parlait tout à l'heure, il y a des jurys qui nous évaluent et qui disent si on valide notre doctorat ou pas. Et moi, je travaille sur la proportion de femmes et d'hommes dans ces jurys-là. Et comment est-ce que les politiques elles peuvent influencer le fait qu'il y ait plus d'hommes ou de femmes dans ces jurys-là? Et sinon, je travaille pour l'association Les Chemins Buissonniers où on fait de projets en classe, comme ici, par exemple, avec la radio, pour l'égalité entre les filles et les garçons.
Bonjour, moi je m'appelle Marois. Vous vous êtes inspirée de quel scientifique?
L'astrophysicien Stephen Hawking, qui était un super scientifique en astronomie. Donc, je me suis inspirée de lui, hein, un peu pour voir comment on peut être autonome pour travailler, faire de la science, tout ça.
D'accord.
Et moi j'avais beaucoup aimé les travaux d'Isabelle Collet, l'informatique a-t-elle un sexe notamment, et autour d'une réflexion sur le sexe ou le genre des sciences et des disciplines.
En fait, moi, mon père, il travaille avec des gens comme vous, Frédéric, et il me dit, c'est pas parce qu'on est handicapé que notre vie, elle est gâchée. Est-ce que vous pensez ce même sentiment?
J'ai le même sentiment aussi, parce que c'est vrai, bon, le handicap n'offre pas toutes les possibilités, certes, mais on est capable aussi de faire plein de choses. Faut pas penser parce qu'on est handicapé que c'est terminé, c'est pas vrai. On peut faire plein de choses, on peut rencontrer de belles personnes. Dans le travail, ben, on a plein d'imagination aussi. Et puis même, on peut partager nos ressentis et du coup, on peut faire avancer les choses aussi.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que travailler avec une personne en situation de handicap comme Frédéric, c'est aussi, même si je l'ai formé, même si je lui ai appris à découvrir le métier de la science, c'est aussi une richesse pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on veut faire une aide de compensation, en fait, la première personne qui va utiliser l'aide technique, finalement, c'est Frédéric. Donc, il va pouvoir faire l'essai, il va pouvoir jouer avec, il va pouvoir nous faire un feedback. Et ça aussi, cette richesse-là, donc de l'expression, des besoins, mais aussi des essais, et ces erreurs, est très importante. Il faut être peut-être mieux gérer son temps, voilà, il faut faire attention qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire ou pas faire dans le temps imparti, mais c'est vraiment une richesse. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, c'est aussi, il faut se battre, non pas simplement sur le plan de la technologie ou le plan génétique, il faut se battre sur le côté sociologique aussi. Je crois que c'est très important qu'en fait, des enfants comme vous, qui sont ces personnes en situation de handicap, puissent suivre un cursus scolaire normal, puissent pouvoir aller au cinéma comme vous, puissent jouer à une tablette, puissent taper dans un ballon, dans un fauteuil. Donc il faut effectivement penser à tout ce que la société peut aussi construire d'environnement pour pouvoir les intégrer.
Radio Bécane.
Le parcours se termine avec la visite de la radio Toulouse FM, proche du collège.
Quels sont les stars qui sont venus?
Alors, les stars qui sont venus, il y a eu Shime, il n'y a pas longtemps, et il y a eu Big Flo et Oli aussi. On a fait une émission spéciale avec eux, et ils étaient là à votre place. On peut aller jusqu'à 12 minutes de pub. Après, il faut savoir que la pub, c'est un truc qui est super important en radio. Bah on est une radio commerciale en fait, c'est-à-dire qu'on vit par la pub. C'est-à-dire que c'est la pub qui paye nos salaires, c'est la pub qui paye le matériel. Quand on fait des OP, bah c'est la pub DR qui paye. Donc la pub c'est super important. Et c'est des annonceurs, donc par exemple bah des annonceurs comme, je sais pas là, par exemple il y a tout ça. Ils vont payer la radio pour qu'on passe leur pub. Et ça doit passer dans un créneau horaire bien précis. Et donc nous on doit veiller à ce que ça passe bien la bonne heure pour laquelle ils ont payé. Sinon ils sont pas contents, ils ne reprennent pas de pub.
Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent avec les pubs?
Alors la radio gagne beaucoup d'argent, mais pas les animateurs. Au moins c'est... Forcément, puisque c'est ça qui nous fait vivre, c'est cher, c'est les pubs en radio. Ouais. Voilà, il y a par exemple des annonceurs, donc des clients, qui vont demander à ce que les pubs passent vraiment à une heure bien précise, en tout début d'écran, pour être les bien vus, ils vont payer plus cher que les autres par exemple.
Je fais un spot en fait sur une soirée qui va avoir lieu mercredi prochain. À l'Étoile en fait, qui est une discothèque de Toulouse, et je m'occupe de faire le spot. Donc j'ai commandé la voix, on a écrit le texte avec Max qui est là, On a commandé le texte avec notre voix off. Notre voix off nous l'a envoyé. Et là, en fait, j'ai fait le montage du spot qui donne ça.
Mercredi 30 mai, c'est l'incontournable et mythique soirée rose à l'étoile. Retrouvez l'ambiance cosy et idyllique.
La personne qui parle, en fait, c'est une voix avec qui on travaille, en fait, qui fait que ça, c'est son métier. C'est-à-dire qu'on lui envoie des textes, il travaille avec plusieurs radios. Et dès qu'il reçoit des textes, en fait, il nous les enregistre avec sa voix, il nous envoie les voix pour qu'on puisse faire le montage avec la musique, les effets, etc. Voilà.
C'est dur comme travail.
Et c'est un milieu qui est vachement informatisé, même au studio, dans les cabines, tous les principaux métiers, on va dire, sont faits avec un ordinateur, ouais. À l'aide. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un hit mix ou un medley musical. En fait, ça sert à promouvoir les musiques qu'on joue à la radio. C'est-à-dire que sur une heure, par exemple, on va entendre une vingtaine de morceaux. Et on va faire des petits éléments qui durent une trentaine de secondes, qui vont promouvoir trois musiques qu'on joue à la radio en ce moment.
Ça dure combien de temps de faire tout ça ?
Là, par exemple, ça va durer, on va dire, une heure et demie, le temps de choisir les musiques, le temps de trouver les refrains dans chaque musique, de les placer, de faire les transitions. C'est ce qui prend le plus de temps, faire les transitions. Et après, ça dépend vraiment des montages. On peut faire des montages en 20 minutes, comme certains vont prendre 3 heures, on va dire.
Vous voudriez être ici ou dans le studio ?
C'est deux parties différentes. Moi, je fais aussi de l'animation à côté, donc c'est deux métiers complètement différents. Après, ma spécialité, c'est vraiment le montage audio. Après, l'animation, j'en fais aussi, donc j'ai pas de préférence, on va dire. Les deux me plaisent.
Ça, c'est votre piano ?
C'est une console.
Piano ?
Qu'est-ce que tu dis, piano, enfin ? En fait, ça permet de choisir tous les sons qu'on passe à l'antenne, tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Donc là, par exemple, tu gères, tu vois, tous les micros qui sont autour, c'est ici. Ouais, ça c'est les micros. Quand on voit les sons, là, Imagine Dragon, Big Fleury, ça se gère ici, les téléphones, c'est ici, voilà. Ça permet vraiment de... C'est une console de mixage, en fait. Et on choisit toutes les entrées et ce qu'on envoie à la radio. Ça permet de tout mixer.
Merci à vous tous et à vous toutes pour votre implication. Merci à l'accueil du collège Maurice Bécane. C'était Radio Collège Bécane, projet des chemins buissonniers, pour le parcours laïque et citoyen du Conseil départemental de la Haute-Garonne, coordonné par Sylvie Cotenceau et Chloé Delacroix, animé et mis en son par Claire Bigeau pour le Radis Saran.
Collège Bécane.
Projet radio, l'humain augmenté.